Ce podcast vous est proposé par le cabinet Stimulus, expert de la santé psychologique au travail. En l'écoutant, vous découvrirez ce que l'on peut apprendre des impacts de la crise sanitaire sur la santé psychologique et la précarité sociale. Ce podcast est animé par Adrien Finder, manager chez Stimulus, avec les témoignages de Jeanne Chevalier, psychologue clinicienne, et Laurence Richard-Kounchef, responsable du pôle social chez Stimulus.
Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre nous se présente. Je vais commencer par Jeanne.
Moi, je suis de formation psychologue clinicienne et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la santé au travail. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai rejoint Stimulus et j'interviens avec quand même une spécificité sur le soutien psychologique aux salariés. Et j'interviens aussi également sur les sites de nos entreprises, avec des entreprises qu'on accompagne, en cas notamment d'accompagnement suite à un événement grave ou dans le cas de permanence, on va dire, liée à la qualité de vie au travail, donc permanence sur lesquelles on propose aux salariés qui souhaitent nous rencontrer de venir échanger avec nous, quelle que soit encore une fois la problématique ou la difficulté. Voilà.
Merci, Jeanne. Laurence, un mot ?
Bonjour, je suis Laurence, je suis assistante sociale de formation, je travaille chez Stimulus depuis 2 ans, je travaille sur la santé psychologique et sociale au travail depuis aussi une petite dizaine d'années et j'interviens plus particulièrement sur la coordination de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement sur site et à distance, donc à distance via notre ligne d'accompagnement et bien sûr sur site chez nos clients.
Et du coup, moi, je suis Adrien Finder, je suis manager chez Stimulus, plutôt sociologue, enfin, en tout cas, pas psychologue, ça, c'est sûr. Et du coup, moi, mon domaine, c'est plutôt l'organisation et le management. Et je ne suis pas l'expert du jour, je vais me contenter d'animer les débats aujourd'hui. Voilà. Alors, pour planter le décor maintenant, de quoi on va parler ? On dispose chez Stimulus d'une ligne de soutien psychologique. Donc, les collaborateurs appellent et remontent des problématiques, des difficultés. Ça, c'est une première source, en fait. Pour nous, c'est massif parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous dire quelles difficultés ils vivent au quotidien. Et vous verrez que dans certains cas, c'est des difficultés auxquelles on ne pensait pas auparavant. On ne s'imaginait pas, on ne se projetait pas ce type de difficultés-là. Et donc, le retour d'expérience et, je dirais, les enseignements qu'on peut en tirer se nourrissent beaucoup de cette source-là. On se nourrit aussi d'une seconde source, que sont les formations, les échanges, les ateliers, les travaux qu'on peut faire avec des DRH ou des directeurs généraux ou des préventeurs sur la question du déconfinement, la préparation du déconfinement et les conséquences du déconfinement. Donc, on a mis tout ça dans une marmite, on a touillé et on a essayé d'en tirer des enseignements. Et puis, parfois, ça prend la forme d'alerte, de bonnes pratiques et c'est de ça qu'on va parler. On va structurer les choses de manière assez simple, puisqu'on est là pour faire un petit bilan des 12 dernières semaines. On va les structurer chronologiquement. On va commencer par se poser des questions sur les conséquences du confinement. Qu'est-ce qu'on en tire de cette période si particulière, ces 8 semaines du 16 mars au 11 mai. Puis ensuite, on va regarder cette espèce de déconfinement un peu étrange qui a commencé le 11 mai, mais pas vraiment, plutôt le 18, mais en fait le 2 juin, puis en fait le 22 juin. Enfin, on ne sait pas trop. Et c'est parce qu'on ne sait pas trop que c'est si particulier, si progressif et aléatoire. Et à chaque fois, hein, c'est l'enjeu de cet échange, c'est qu'on met en regard, finalement, un regard de psychologue, clinicien, et un regard sur les problématiques sociales. D'accord ? Et c'est de ça qu'on va causer du début à la fin de cet échange. Première chose à avoir en tête, le confinement, ça a été une situation très particulière, en ce sens qu'il a été massif. Tout le monde s'est pris le truc dans la figure en même temps. Soudain, surprenant, il faut s'adapter. Et quand on doit s'adapter, on fait des erreurs. Et rempli d'incertitudes. Et je dirais que l'incertitude, c'est quand même le truc qui nous poursuit en ce moment et qui risque de nous suivre pendant encore quelques semaines. Et pour démarrer les échanges, j'ai une première question pour Jeanne. En fait, un des premiers constats qu'on a pu établir, c'est qu'il y a eu des émotions très fortes qui ont envahi les personnes. Au début, pendant, à différents moments. Mais la particularité, c'est que ces émotions se sont installées. Et je pense en particulier à la peur et à la colère qui se sont installées chez certaines personnes. Et je serais assez curieux de ton feedback là-dessus.
Évidemment, alors on a eu à faire face à énormément une palette d'émotions qui a été très variée pendant toute cette durée du confinement aujourd'hui. Sauf que ce qui est intéressant, et ce que tu disais effectivement, c'est que la peur et la colère, ce sont deux émotions qui sont apparues dès le 16 mars et qui sont toujours d'actualité. Si je remonte un petit peu en arrière, le 16 mars, c'est venu pour beaucoup d'entre nous, comme tu le disais, acter une situation à laquelle on ne s'attendait pas, qui était inédite et sur laquelle surtout on n'a pas eu de contrôle. La particularité aussi de ce confinement, c'est qu'il est venu faire une réponse à un risque qui était une éventuelle mise en danger, celle de tomber malade et d'être contaminé par ce virus. Et que bah, quand on est face à un danger, on a tendance à mettre en place de façon assez schématique deux types de réactions, ou la fuite ou l'attaque, qui sont finalement deux réponses antagonistes qu'on met en place lorsqu'on est face à un fort sentiment de peur. Alors, comment ça s'est traduit? Vous l'avez vu comme moi, on a observé au départ des comportements collectifs de panique, avec notamment ces ruées sur les supermarchés, ce besoin de faire des provisions à outrance. Sauf qu'au-delà de ces réactions collectives que vous avez vues, on a rapidement eu sur notre centre d'écoute psychologique à accompagner des personnes qui étaient en proie à des peurs un peu moins visibles, mais toutes liées à la crainte d'être contaminées. Et cette peur, en fait, elle s'est traduite chez eux par des comportements de type hypocondriaque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va porter une attention toute particulière à des symptômes, ou à des supposés d'ailleurs symptômes, auxquels on ne se serait pas du tout, enfin sur lequel on ne se serait pas du tout arrêté ou fait attention en temps normal. Ça va être, je ne sais pas, par exemple, vous savez, la petite gorge qui va piquer le matin ou le nez qui coule à un moment donné. Sauf que là, on va se focaliser là-dessus comme si ça voulait dire forcément qu'on était malade, contaminé. Alors, évidemment, c'est très bien d'avoir dans cette période de confinement eu une espèce de renforcement de cette vigilance, puisque bien évidemment, ça a une fonction. C'est la fonction de nous protéger, sauf que dans un même mouvement, ça peut nous desservir puisque ça vient alimenter et accroître cette peur qui était déjà présente. On a pu noter aussi la même chose, par exemple, autour de tout ce qui va être les rituels de nettoyage, que ce soit les rituels de nettoyage de mains ou d'emballage alimentaire. Alors, se nettoyer souvent les mains, oui. Par contre, se nettoyer 10 fois les mains sans interruption et à la suite, ça n'a aucun sens et ça peut commencer à ressembler à des comportements obsessionnels compulsifs. Donc,
Est-ce que tu...
voilà un peu, ouais.
Non, vas-y,
Comment
vas-y,
ça
vas-y.
s'est, voilà un peu comment ça s'est traduit, en tout cas, sur cette peur-là, sur un premier niveau, en tout cas, de confinement, lorsqu'il est venu, ce qu'on a pu, en tout cas, nous entendre derrière la ligne d'écoute.
Mais du coup, enfin, en tout cas, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que la peur a pris tout un tas de formes et a eu des incidences sur tout un tas de comportements. Il y en a qu'on voit à la télé, entre guillemets, puis il y a tous ceux qu'on ne voit pas à la télé. Moi, je me souviens dans un échange qu'on avait eu ensemble, notamment pour préparer, que tu avais parlé aussi beaucoup de la colère, et une colère un peu multitête, c'est-à-dire j'en veux à l'État, j'en veux à Macron, j'en veux à mon chef, j'en veux aux dirigeants, j'en veux à l'ARH, j'en veux à mon collègue. Ça a pris quelle forme, ça, notamment à la nuit, en termes de ressenti?
C'est ça, tu as raison. On a eu énormément de ces questions-là hein, que tu disais, alors ou qui étaient directement dirigées ou pas forcément, mais avec ces espèces d'incompréhension et qui sont, enfin, qui peuvent être légitimes en tout cas, puisque si on refait un petit peu le film en arrière, le samedi 14 mars, on était tous, enfin, certains d'entre nous étions au bar en train de boire des verres, et 2 jours plus tard, il fallait un bout de papier pour nous autoriser à aller dehors 1 heure dans un certain périmètre pour. Sous certaines conditions. Donc, en fait, on a tous dû s'adapter au même moment et de façon hyper importante et sur un temps très très court à cette nouvelle situation. Sauf que notre petit cerveau, quand il doit s'adapter de façon massive et brutale à une situation, ça peut générer des incompréhensions et du coup des sentiments d'injustice ou d'iniquité. On interdit les parcs, mais on autorise les supermarchés. On interdit d'aller faire le jogging entre 10 h et 18 h, mais il y a des autorisations de sortie d'enfants. On a pu l'entendre aussi au niveau de la sphère même professionnelle, personnelle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas poser, moi, des gardes d'enfants malades alors que lui, oui, etc. Donc, il y a eu plein de formes différentes, effectivement, multidestinataires. Et ça a engendré, en fait, comment dire, des. Ouais, une forme de comparaison, c'est-à-dire les gens se sont comparés entre eux, mais dans un environnement où finalement les règles n'arrêtaient pas d'évoluer de façon très très vite et petit à petit, en fait par tâtonnement, on allait sur un type de règle pour en revenir, puis pour aller sur une autre, et du coup c'est venu renforcer ce sentiment d'inéquité, voire de quelque chose d'assez illogique. Et face à ça, on a pu entendre, en tout cas, et puis vous avez pu le voir peut-être notamment vous aussi, mais des comportements un petit peu de défiance. C'est-à-dire, par exemple, ben, je ne vais pas respecter la règle de distanciation sociale quand je vais faire mes sorties, voire pourquoi pas même, je ne vais même pas respecter la règle des sorties et pourquoi pas, non, je sais pas prendre garde à, je sais pas, à toutes les consignes sanitaires qu'il pouvait y avoir et tout ce qu'on aurait dû faire et que peut-être on n'avait pas fait.
C'est un peu une rébellion, quoi.
C'est une forme de rébellion. Alors, on va le mettre rébellion entre guillemets, mais
Ah,
ouais,
c'est
c'est une forme de
intéressant. Non,
rébellion.
parce que c'est intéressant ce que tu dis, notamment par rapport à ce que nous, on peut voir en entreprise, et notamment sur des comportements parfois un peu négatifs, et notamment de rébellion aussi, quand je suis pas reconnu, quand je comprends pas la logique. Et souvent, ça prend trois formes. Et j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, qu'en fait, il y a un peu des trois. Dans les mobiles des personnes qui ne respectent pas les règles sanitaires, qui n'en font un peu qu'à leur tête. La première, et tu l'as, t'as prononcé le mot, hein, c'est cette tentative de rééquilibrer mon sentiment de justice. Finalement, en ne respectant pas la règle, vu que j'ai l'impression d'avoir été lésé d'une manière ou d'une autre, que des règles qui se sont appliquées à certains ne se sont pas appliquées à moi, bah, du coup, je respecte plus les règles et comme ça, je rééquilibre. La justice à mon profit, entre guillemets. Une deuxième possibilité, nous, c'est des choses qu'on observe en environnement professionnel, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que je n'accepte pas la règle. Je n'accepte pas au sens, je la considère pas comme légitime. Alors là, on a les masques, on a le fait d'être à X autour d'une table, le fait de dire bah, à l'école, c'est comme ci, puis en dehors de l'école, c'est comme ça, enfin, on a tout un tas de situations. Et du coup, j'applique mes propres règles. C'est-à-dire que moi, en mon âme et conscience, je ne crois pas que ce soit risqué de faire ceci ou cela. Par exemple, je ne pense pas que le masque soit utile, donc je n'en porte pas en supermarché. Voilà. Entre guillemets, j'assume mon risque, j'ai mon éthique personnelle. Je remplace l'éthique imposée par le gouvernement, par un cadre. Ça peut être aussi le cadre de l'entreprise, et notamment le respect des gestes barrières en entreprise, on en parlera tout à l'heure, que je remplace par mon cadre à moi. Le problème ici, évidemment, il est dans la cohérence. Dans le respect de l'autre, enfin, dans tout un tas de situations qui peuvent être générées par ce problème. Le troisième truc auquel ça me fait penser, c'est tout simplement que c'est un geste politique, une rébellion au sens strict, c'est-à-dire finalement, je passe un message à ceux qui encadrent en ne respectant pas les gestes barrières. Et encore une fois, c'est quelque chose aussi qu'on peut transposer assez facilement dans le monde de l'organisation.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est probablement un peu détroit, c'est sûrement pas une chose ou une autre. Mais effectivement, puis on le verra après hein, sur le déconfinement et sur ce qu'on voit, ce qu'on observe aujourd'hui, il y a toujours ces comportements un petit peu de rébellion qu'on voit à l'œuvre et effectivement, ils viennent signifier plusieurs choses. Peut-être ce que ça me fait rebondir, hein, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment les choses ne sont pas aussi claniques. Il n'y aurait pas ceux qui ont peur, ceux qui sont en colère, et c'est pas autant clivé. On a recueilli aussi beaucoup de témoignages sur des personnes qui sont soucieuses, qui seraient énervées même face à ces gens-là qui se moquent des consignes. Donc, on va les appeler les insouciants pour que ce soit plus facile, mais c'est un peu comme si finalement, dans un même mouvement, il y avait les soucieux qui étaient en colère face aux insouciants qui ne respectent pas les consignes, et ces mêmes insouciants qui, eux, pour le coup, sont peureux, ou en tout cas très craintifs, face à ce que leur comportement d'insouciance ont généré chez les soucieux. Je prends pour exemple, hein, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une explosion du nombre de dénonciations au service de police pour signaler ceux qui ne respectaient pas les consignes et qui ont effrayé une bonne partie de la population. Donc, on voit que les choses sont sont bien évidemment pas si clivées que ce que je vous ai raconté et qu'il y a eu aussi un mélange émotionnel de tout ça.
Donc là, on a vu un peu les effets psychiques du confinement. Laurence, en fait, toi, les effets sociaux du confinement, moi, le truc qui m'avait choqué, quand on en a parlé, alors là, pour le coup, ça fait longtemps, on en a reparlé là pour préparer cette table ronde, mais c'est un truc dont on parle depuis maintenant 2 mois, 3 mois maintenant, c'est que bah, les personnes que tu accompagnes, en fait, ont disparu. Et du coup, comment ça se fait? Comment on l'explique? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Oui, effectivement, Adrien, les 2 premières semaines du confinement, ça a été des plus calmes au service social. On a été beaucoup moins sollicités qu'en temps ordinaire. On a mis en charge, on avait tout mis en œuvre pour continuer les accompagnements engagés, pour rester là aux côtés des personnes. Mais décision a été prise d'aller aussi vers celles et ceux dont on savait que l'accompagnement était en veille, celles et ceux dont on savait que c'était fraîchement terminé, ne serait-ce que pour savoir si pour eux tout allait bien. Et puis aussi bah, pour leur dire, OK, on est là, le service est actif, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, une attente d'une administration, n'hésitez pas à revenir vers nous, même si le suivi n'est pas actif à l'instant T, on sera bien évidemment là. Et puis, comme le disait un petit peu Jeanne tout à l'heure, c'est que la situation inédite est potentiellement de danger parce qu'on entendait tous les jours le décompte des personnes qui décédaient à l'hôpital ou chez eux du coronavirus. On a en tout cas des personnes qui ont fui. Alors, on peut imaginer qu'ils n'ont pas strictement fui les assistantes sociales, j'espère, mais en tous les cas, elles ont simplement réorganisé leurs priorités, ce qui est finalement, enfin, avec un peu de recul, c'est assez logique. Et je vais vous citer pour ça deux exemples. Le premier qui risque de parler quand même à beaucoup, tout au moins l'expression risque de parler à beaucoup d'entre vous, c'est l'école à la maison. Pour beaucoup de salariés parents, faire l'école à la maison, ça s'est avéré compliqué. Et bien pour d'autres, ça s'est avéré compliqué et douloureux. J'ai un père de famille que j'accompagnais, qui zappait à peu près tous les rendez-vous qu'on avait ensemble. Jusqu'au jour où il a pu m'expliquer en fait qu'il n'était pas capable d'aider son enfant à comprendre l'exercice, à faire les exercices, et dans ce contexte de crise, en fait, il était constamment renvoyé à ses propres difficultés scolaires, enfin en tout cas celles qu'il a pu connaître par le passé. Et bien évidemment, il ne voulait pas que son fils un jour se retrouve en difficulté comme lui pouvait l'être aujourd'hui et puis sûrement dans le passé. Et du coup, il préparait les cours très très en amont. Il faisait des exercices, enfin, ça lui prenait un temps infini. Et ce qui s'est passé, c'est que embrayé sur le temps de leçon, enfin, embrayé ce temps de préparation, le temps de leçon et puis nos rendez-vous, forcément, monsieur, le suivi qu'il avait débuté avec nous, c'était clairement plus sa priorité. Il avait réorganisé les choses en fonction du contexte et il zappait régulièrement les entretiens. Donc, ça, c'était une première réponse qu'on a eue sur cette baisse de la fréquentation du dispositif. Un autre exemple qu'on a pu aussi avoir et qu'on a pu avoir plusieurs fois, c'est qu'une jeune femme qui était accompagnée antérieurement à la crise sanitaire, en fait, nous a dit qu'elle ne pouvait pas parler librement. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite, contexte de violence conjugale, en fait, pas spécialement, c'est qu'elle nous a dit qu'elle n'avait pas dit à son conjoint qu'elle s'était rapprochée du service social de l'entreprise, parce qu'elle voyait bien depuis un certain temps des dettes s'accumuler. Monsieur, pas forcément enclin à ce que madame aille raconter les problématiques de l'intimité de la maison. Et donc, forcément, elle ne pouvait pas être tranquille dans son logement pour pouvoir discuter avec nous des démarches à faire pour sortir le foyer de l'ornière financière où il se trouvait depuis quelque temps. Donc, en prenant un petit peu de recul, ce qu'on a compris, c'est que le confinement, finalement, ça a généré de la promiscuité, qui a généré du repli, de l'isolement. Et finalement, ça peut paraître antinomique comme ça, mais promiscuité et isolement sont apparus et ont été pour nous, sur les 15 premiers jours, un vrai facteur de baisse de fréquentation.
Mais Laurence, quand tu dis isolement, quand les gens t'appellent, est-ce qu'ils te parlent de leur. Quand ils s'adressent à toi, ils s'adressent à toi parce qu'ils s'adressent que à toi ou est-ce qu'ils ont d'autres, des voisins, leurs collègues avec qui ils peuvent échanger, les copains, les Zooms? Comment ça se passe en fait?
On a plein de configurations différentes. On peut avoir des personnes qui sont isolées, c'est-à-dire que mis à part la boulangère à qui ils vont acheter leur baguette de pain le matin, ils vont pas parler à qui que ce soit d'autre dans la journée. Et pour autant, on va aussi avoir des personnes qui vont être plutôt dans une situation de repli. On a tout plein de cas de figure, mais moi, ce qui me paraissait vraiment essentiel de pouvoir ramener ici, c'est que la promiscuité, ça génère de l'isolement et ça peut générer du repli. Et ça peut du coup générer un éloignement des démarches sociales.
Alors, moi, je vais reprendre ce terme que tu as utilisé là, promiscuité et isolement, cette espèce de paradoxe. Parce que quand on regarde le monde du travail, toi, tu nous parles de promiscuité et d'isolement au sein d'une famille, dans des difficultés, où finalement, on s'est retrouvé collé, et en même temps, parce qu'il y a des difficultés, parce que chacun doit travailler dans son coin, etc., on s'isole tout en étant proche. Nous, ce qu'on a constaté, c'est exactement ce paradoxe. C'est-à-dire que vous êtes, en tant que télétravailleur, plongé dans une espèce. Enfin, vos collègues ont une vue immédiate sur la décoration de votre salon, voient la bouille de vos enfants parfois pour la première fois, et pour autant, du fait de la distance, sur des sujets fondamentaux, que serait la fatigue, les difficultés, etc., ben, on a moins la capacité à voir les signes, moins la capacité aussi à rebondir quand on sent que la personne ne va pas bien. Et puis derrière l'écran, on peut se camoufler, hein, on peut aussi couper l'écran, etc., pour se protéger, pour éviter que les gens voient que ça ne va pas. Et donc, on a aussi cette promiscuité, isolement, dans la relation avec les collègues. C'est-à-dire qu'on est plus proche de ses collègues, on voit un peu mieux ce qui se passe dans le quotidien, mais moins bien la réalité psychologique de son collègue ou de son collaborateur quand on est manager. Et là, j'ai deux situations que je trouve intéressantes à partager. La première, c'est dans les entreprises publiques ou dans les organisations publiques, une vraie difficulté est notamment liée à une espèce de forme d'asymétrie ou de déséquilibre au sein des couples à l'intérieur des foyers. Et c'est la chose suivante, c'est que quand vous avez deux personnes qui travaillent avec des choses à faire, hein, des enjeux, et qu'une personne est du secteur public ou assimilée public par son conjoint, le conjoint considère que comme l'autre est du secteur public, entre guillemets, eh ben, c'est moins stressant pour lui de ne pas travailler que pour lui. Et donc, c'est à lui ou à elle, évidemment, souvent, de s'occuper des enfants, de se mettre en arrêt garde d'enfants ou de se mettre en télétravail dégradé. Et nous, on a les managers de ces entreprises-là qui ont des choses à faire, qui ont des enjeux, et puis parfois aussi la continuité de la nation, et qui disent, mais nous, on n'arrive pas à aider nos collaborateurs qui sont en détresse, qui nous appellent, qui nous disent, mais j'arrive pas à convaincre mon conjoint ou ma conjointe que non, moi aussi, il faut que je travaille, moi aussi, il faut que j'avance, moi aussi, j'ai des enjeux. D'accord? Et ça crée aussi de l'isolement à l'intérieur d'un foyer, donc de la proximité, de la promiscuité, pardon, et de l'isolement. En fait, on se met à ne plus se comprendre. Car aussi, c'est très confortable, entre guillemets, quand le travail est du domaine du travail et ne s'invite pas dans la sphère privée. Quand elle s'invite dans la sphère privée, ça peut créer des phénomènes comme ça de mise à distance. Et du coup, non, je reviens un petit peu sur mon histoire de colère et sur mon histoire d'isolement. Du coup, Jeanne, on a parlé de la peur, on a parlé de la colère. Bon, ça, c'est des sentiments qui s'installent, ça crée des émotions, ça crée plein de choses. Mais c'est quoi du coup les conséquences pour les gens? En fait, ils se comportent comment? Qu'est-ce qui se passe du coup?
Ben, on l'a vu surtout à la sortie en fait, hein, de ce confinement et lors du déconfinement, puisque on a vu que la colère et la peur qui étaient déjà présentes, donc avec cette mise, cette obligation de rester chez soi H24 quasiment, étaient toujours présentes malgré cette volonté de sortir du confinement. Ce qui est assez logique, puisque beaucoup, en tout cas, je ne vais pas dire on sait tous, mais beaucoup se sont habitués à télétravailler, à être dans une espèce d'entre-soi. Alors, hyper, certes, avec une promiscuité, mais avec quand même une rythmicité qui n'est pas habituelle et certaines habitudes qui se sont recréées, parce que ça n'a pas duré que 4 jours, ça a duré quand même pas mal de semaines, cette histoire. Et sauf que là, d'un coup, boum, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au départ, les premières annonces qui nous ont été faites, on avait cette espèce de date du 11 mai qui sonnait comme quasiment prophétique. Sauf que, on s'est aperçu qu'en fait, cette projection d'une rebascule soudaine, même si on l'a vu après, et puis j'y reviendrai, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais dans un premier temps, c'est venu un peu renforcer cette peur et la colère dont on a parlé juste avant, qui était déjà présente, avec par exemple une peur de reprendre des transports. La peur, je ne sais pas, de retourner sur son lieu de travail, qu'on va peut-être supposer plus facilement contaminé que si on reste chez soi. Tu parlais des collègues, mais pourquoi pas aussi la peur de retrouver certains collègues ou des managers qu'on était bien content de pouvoir mettre à distance à certains moments donnés. Si on va un peu plus loin, hein, enfin, on a eu en suivi certains de ces salariés qui avait mal vécu ce confinement de par cette promiscuité dont on parlait, mais qui redoutait, je ne vais pas dire tout autant, mais presque même plus, sa sortie. Un peu comme si finalement, c'était presque préférable de ne pas sortir de cette enveloppe quand même protectrice, de rester un peu dans cette espèce de cocon dans laquelle ils étaient, aussi insupportable soit-il pour certains, hein, puisque le confinement, quand ça se passe pas bien dans sa sphère personnelle, ça peut être très compliqué à gérer, que d'être comme ça catapulté dans un extérieur qui serait un peu plus anxiogène, enfin, voire très anxiogène pour certains, et dangereux. Et de façon assez logique, on a vu à nouveau cette peur qui s'est liée à de la colère avec cette impression d'être catapulté comme ça dans un environnement d'un coup de travail qui est, pour certains, encore une fois, anxiogène et sans préoccupation en fait des ressentis individuels. J'ai parlé là d'être catapulté, mais en fait, c'est ce que moi j'ai appelé en tout cas en fait, cet effet de capsule. C'est un peu comme si on était, alors on nous avait imposé une mise en capsule de façon assez brutale et soudaine à un moment donné, et dans un même mouvement, quelques semaines plus tard, cette sortie comme ça de capsule tout autant imposée et tout autant brutale. Donc ça a pu générer voilà, justement cet ancrage de peur et de colère chez certains.
C'est très intéressant ce que tu dis, Jeanne, parce que quand on regarde la façon dont les stratégies de déconfinement se sont mises en place avant le 11 mai, j'insiste, dans la semaine ou les 15 jours qui ont précédé, les plans de déconfinement actaient cette rupture. C'est-à-dire, le 11 mai, tout le monde rentre à la maison. Enfin, tout le monde rentre au travail sur site. D'accord? Et en fait, très vite, ça a changé. Ce qui a fait que nous, d'ailleurs, on a dû nous adapter dans l'accompagnement. On accompagnait les managers à accueillir toutes les équipes ou la moitié des équipes à T0 au 11 mai. Et puis, en fait, les gens ont très vite freiné. Ils se sont bien rendus compte que ce n'était pas faisable pour des raisons liées aux gestes barrières, mais pas uniquement, je pense. Aussi liées au fait qu'il fallait faire un glissement progressif presque imperceptible. D'accord? Et aujourd'hui, quand vous voyez les plans de déconfinement assez classiques qu'on observe dans les entreprises, mais dans les usines, dans les organisations publiques, etc. On est sur plutôt des grandes périodes de un mois et demi, 2 mois, où c'est sur la base du volontariat avec une montée en capacité d'accueil, en retour sur site, très progressive. Donc ça fait écho à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage alors sans que le terme capsule soit même intégré, enfin la question se pose même pas, hein. Mais on a observé ça. Ça me fait faire une transition. Pratique avec l'étape d'après. Donc là, on a beaucoup parlé du confinement et de ses conséquences. On va parler un petit peu plus maintenant du déconfinement. Alors le déconfinement, comprenez-moi bien, hein, on y est dedans, hein. C'est le déconfinement, c'était pas le 11 mai, hein. Ça a commencé le 11 mai et puis il y a eu une deuxième salve le 2 juin et puis on y est encore pendant un certain temps. Ce qu'on appelle, nous, le retour très progressif à la normale. Et donc le déconfinement, Jeanne, du coup, une question pour toi. Comment on aide ces personnes qui sont là dans leur capsule, capsule pas forcément très confortable, mais tellement rassurante, comment on aide des personnes prises par cette inquiétude-là et ce stress de sortir, comment on les aide à retrouver le monde et l'entreprise, évidemment?
Il n'y a pas une façon de faire, mais en tout cas, il y a quand même des dénominateurs communs à tous aux accompagnements qu'on peut réaliser. C'est que souvent, il s'agit dans un premier temps de déconstruire déjà des peurs irrationnelles, du type, si je vais travailler, je sors de chez moi. Si je sors de chez moi, je vais être contaminé. Si je suis contaminé, je vais mourir. Solution, je me mets en arrêt de travail. Donc ça peut paraître complètement aberrant, mais c'est vraiment des raisonnements qui sont ancrés chez les personnes qui sont très soucieuses et qui ont vraiment développé des ressentis de peur et de crainte à l'idée de sortir de chez eux. Donc dans un premier temps, le premier pas, la première chose qu'on fait, c'est de déconstruire ces peurs irrationnelles pour les rendre illogiques. Et une fois qu'on a fait ce travail, alors ça peut prendre un certain temps chez certains, parce que chez certains c'est bien bien ancré, on essaie s'il y a besoin de réinscrire cette capsule du confinement qui est restée quand même un moment à part dans une espèce de logique, alors une logique qui est chronologique avec un avant, un pendant et un après confinement pour éviter que cette capsule continue, alors pas à faire peur en elle-même, mais en tout cas que le reste de cette capsule fasse peur. Puisque bah, régulièrement, une fois qu'on a dégommé un peu ces peurs irrationnelles, les peurs qui restent, alors il n'y en a pas tout le temps déjà, mais s'il en reste, elles sont rationnelles, elles sont surtout souvent liées à autre chose. J'ai eu un homme, par exemple, qui nous avait appelé, enfin que j'avais eu en suivi, plutôt parce que l'appel n'a pas été unique, qui appelait et qui était tétanisé à l'idée de sortir du confinement. C'était inenvisageable pour lui. Sauf qu'au fil des entretiens, après avoir cassé un peu ses peurs irrationnelles de si je sors, je vais mourir, qui étaient des peurs irrationnelles chez ces personnes-là, on arrivait en fait à un constat, à un moment donné, qu'en fait, chez lui, qui disait déconfinement disait sortir de chez lui, qui disait sortir de chez lui disait retourner travailler, qui disait retourner travailler disait moins de temps de présence à la maison, et qui signifiait surtout ne plus être H24 avec ma femme. Sauf que c'est un monsieur qui avait une problématique de jalousie excessive à l'encontre de sa compagne, et du coup, ça venait réactiver tout ça. Donc en fait, on a travaillé ensemble sur l'existence de cette jalousie qui était là avant le confinement, qui avait disparu un peu de façon magique pendant cette période de confinement, mais finalement, c'était une fausse idée, c'était une fausse bonne solution qu'il avait mise en place, puisque d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui l'avait mise en place sciemment, et puis qui finalement revenait, puisque ben, le déconfinement pointait le bout de son nez, du coup, ça terrifiait monsieur à l'idée que finalement des disputes puissent ressurgir. Donc en fait, pour que cette sortie de capsule ne soit pas tant redoutée chez lui, on a juste bossé sur l'existence, c'est-à-dire ce qui était présent avant, pendant, après, c'est-à-dire sa jalousie. Et bizarrement, une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on a commencé à travailler ça, alors je ne dis pas que ça a été facile et que ça a été hyper rapide, mais en tout cas, la peur liée à cette sortie a largement diminué. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire comme travail derrière le centre d'écoute, ou en tout cas avec les personnes qui étaient en difficulté. Et puis, au niveau des organisations, c'est un petit peu ce que tu disais. Alors, on a adapté aussi nos conseils, parce qu'on a appris, nous aussi, en marchant, mais on a conseillé évidemment une reprise progressive pour que cette sortie de confinement, elle se fasse par palier. Si je prends une comparaison, c'est comme quand on accompagne par exemple sur des phobies et qu'on met en place des thérapies d'exposition, c'est-à-dire vous vous confrontez petit à petit à ce qui fait peur pour éviter d'être confronté d'un coup d'un seul à l'objet que vous redoutez tant. Et puis ensuite, hein, comme tu le disais un petit peu, mais rien de nouveau, on a conseillé évidemment de renforcer des échanges qui sont individuels ou collectifs lors de la reprise et qui sont évidemment centrés sur les ressentis et les besoins de chacun. Je le répète, mais j'aime bien le répéter, quitte à enfoncer des portes ouvertes, mais les basiques habituelles en fait restent essentielles. On accueille bien un collaborateur qui revient au moment du retour. On soutient ceux qui vont pas bien, ceux qui demandent de l'aide, même si on a la petite idée en se disant peut-être qu'il va pas si mal que ça et qu'il en rajoute. On le soutient. Et on aide surtout les managers qui sont en première ligne pour gérer tout ça et qui doivent eux aussi apprendre sur toutes les difficultés auxquelles ils ont à faire face.
C'est intéressant ce que tu dis, je vais garder ce terme. Les basiques là dont tu me parles, je les mets en regard avec la petite phrase que tu as utilisée tout à l'heure quand tu as dit les voisins dénoncent les voisins. En fait, on est dans un environnement, et nous on le voit tous les jours, hein, qui peut être source de tension assez rapidement. En tout cas, au moment du retour, au sujet par exemple du respect des gestes barrières, pas plus tard qu'hier, quelqu'un nous a dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans l'ascenseur. On a des cohabitations de personnes plutôt négligentes sur le respect des gestes barrières, des personnes plutôt arc-boutées, ça crée très vite des tensions. Il y a aussi ce que tu évoques, c'est-à-dire que on se fait des idées, a priori, sur le niveau de fatigue, de stress, d'angoisse, de tata, toto, tutu. Et là, je dirais, là, il y a un principe de prudence qui n'est pas un truc pour nous experts, mais qui est un truc pour tout le monde, pour les collègues, pour les gens, en fait. C'est de faire un truc qu'on a du mal à faire en temps normal, mais qui là devient vital. C'est de suspendre tout jugement sur la personne. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un, peu importe, elle va avoir parfois des comportements qui peuvent vous choquer, vous énerver, vous n'allez pas les comprendre. Laver 10 fois ses mains, écouter aux portes des toilettes pour vérifier si les personnes se lavent les mains, ce genre de choses. Et là, vraiment, le conseil ou la recommandation, c'est vraiment de accueillir tout ça avec le maximum de bienveillance, sans juger a priori. Et si vous voulez aider quelqu'un, demandez-lui d'abord ce qui ne va pas, plutôt que d'imaginer ce qui ne va pas à sa place. Voilà. Ça, c'est le premier risque dans cet environnement, étant donné la diversité des situations et étant donné le côté contre-intuitif, on ne peut pas savoir à l'avance qui va bien, qui va moins bien et pourquoi. J'en profite pour rebondir vers toi, Laurence, et reprendre cette question du déconfinement. On a vu que les gens avaient disparu de vos radars pendant la période du confinement. Là, les administrations ont rouvert, hein, depuis maintenant quelques semaines. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment pour toi et pour les personnes que tu accompagnes?
Alors d'abord, juste pour refixer un petit peu les choses, les personnes ont disparu, on va dire, les 15 premiers jours du confinement. Après, elles ont commencé à revenir. Là, la situation de crise sanitaire a forcément énormément impacté les administrations qui pourtant ont fait leur possible pour maintenir une activité minimale. C'est ce qu'on a appelé plutôt un ralentissement administratif. Il n'y avait rien qui était fermé, mais en gros, tout mettait plus de temps à être fait. Donc, pour faire les démarches, pour trouver les bons contacts, les salariés autant que nous-mêmes, on avait perdu nos relais, nos contacts privilégiés, et du coup, on devait aussi faire avec des nouvelles modalités de mise en place, d'instruction, d'envoi des dossiers. Enfin, on apprenait au fur et à mesure, et puis on voyait que l'organisation, on nous disait une adresse mail un jour et puis une adresse mail un autre jour, donc c'était pas forcément très rassurant tout ça. Et donc tout ça c'est devenu particulièrement chronophage. Et dans ces périodes-là, on a remarqué que les personnes qu'on accompagnait, en tous les cas, se démobilisaient à la vitesse grand V. Alors comme on avait compris qu'on se faisait déjà doubler assez facilement par la réorganisation de priorités, école à la maison, conjoint qui est pas au courant, enfin promiscuité un peu compliquée, on avait en plus de devoir dépenser beaucoup de temps pour trouver la bonne info au bon endroit, au bon interlocuteur, au bon moment, à la bonne heure. On devait en plus énormément soutenir les collaborateurs pour leur dire mais non c'est possible, mais non on va y arriver, mais bien sûr il y a une solution. Et du coup, il a fallu déployer effectivement dans nos entretiens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Depuis le 11 mai, les organisations, les institutions publiques sont en train de reprendre un petit peu leur activité, mais bah, comme partout, hein, de façon très progressive. Hein, et du coup, on le rappelle, hein, le télétravail est resté la norme tout le mois de mai. Et depuis 11 mai, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que les dossiers qui ont été déposés en cours de confinement ne sont pas forcément enregistrés, c'est qu'ils ne sont pas encore en phase d'instruction. Donc, globalement, la conclusion, c'est qu'on perd en lisibilité sur l'avancement des situations, sur l'avancement du dépôt des dossiers. Donc forcément, ça s'avère être anxiogène pour les personnes. Et dans ces cas-là, bah, on passe notre temps aussi à rassurer. Et donc, je vous rappelle, on prend du temps pour trouver les bons relais, pour trouver la bonne info, pour trouver la bonne modalité de dépôt d'un dossier. Et là, on prend beaucoup de temps pour finalement rassurer les personnes, pour leur dire que finalement, ça va bien se passer. Et du coup, bah, pendant tout ce temps où la personne est dans l'anxiété, on se rend compte que ça fait aussi écran à l'accompagnement social. Donc, si les personnes ont disparu les 15 premiers jours, là, on est plutôt dans une phase sur cette partie-là, une phase où les personnes on va avoir du mal à avoir accès à leurs difficultés sociales parce que justement, il y a l'anxiété de où en est mon dossier. Pour la partie de ta question sur la nature des demandes et puis entre le départ du confinement et maintenant, en gros, les personnes disparaissent, elles réapparaissent. Quand elles réapparaissent, elles vont plutôt nous parler de difficultés locatives. Alors moi, mon hypothèse, c'est que les personnes étaient pleinement confrontées à leurs conditions de vie et surtout, elles étaient confrontées, quand c'est un logement inadapté, à l'envie d'en changer, notamment quand on est dans un logement trop petit, quand on est dans un environnement insécurisant. Et là, pleinement, voilà, H24, forcément, c'était les problématiques qui nous étaient remontées. Depuis fin avril, on est plutôt sur des problématiques budgétaires. Donc là, bah, clairement, les premiers bulletins de salaire fin avril sont arrivés amputés de 20% parce que activité partielle. Et là, on commence à arriver sur le début des difficultés socio-économiques. Je dis début parce que, à mon avis, on va avoir d'autres difficultés qui vont s'ancrer, qui vont se marquer, notamment parce qu'on entend de plus en plus régulièrement que le conjoint, la compagne, ne va pas retrouver son emploi. Donc, on va probablement être de plus en plus sollicité sur ces sujets.
Ça, c'est ce que vous pouvez faire, Laurence. Qu'est-ce que peut faire l'entourage, y compris professionnel? Moi, je suis manager, je suis RH, je suis dans une entreprise. J'ai mis des gens en activité partielle, ils ont perdu 20% de leur salaire pendant un mois ou deux, par exemple. Bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, moi, en tant que manager, qu'est-ce que je peux faire?
Il va y avoir deux cas de figure, c'est que soit tu es manager ou RH dans une entreprise qui a une assistante sociale sur site, dépendante de l'entreprise, enfin, ça aide l'entreprise ou en inter-entreprise comme nous. Donc là, tu vas pouvoir directement l'adresser vers cette interlocutrice-là ou cet interlocuteur-là. Mais s'il n'y a pas ce relais-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton collaborateur ou ta collaboratrice pourrait évoquer son inquiétude sur un dossier dont il ne sait pas trop où ça en est. Et puis bah, du coup, comme il est dérouté dans ses habitudes, tu n'as plus ses interlocuteurs habituels. Eh ben, tu vas du coup être finalement l'oreille de ton collaborateur ou de ta collaboratrice qui va venir te parler de ce souci. Alors globalement, je prendrais bien le pari que la question elle va t'arriver comme ça, brute de décoffrage, parce que la personne elle est juste super stressée et que le silence administratif, c'est forcément dramatique, le dossier aura été forcément refusé. Enfin, voilà toutes les anticipations négatives qu'on peut faire. Donc, dans ces cas-là, je te propose plutôt, toi, Adrien, manager ou RH, c'est bah, de rassurer et de contextualiser. Contextualiser, ça veut dire de rappeler que le contexte sanitaire, comme le disait tout à l'heure Jeanne, c'est que le 14, tout le monde était dans sa petite vie et le 14 mars, hein, j'entends. Tout allait bien et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, plus rien. En tous les cas, on travaille tous de chez nous pour ceux qui y peuvent. Et donc, ça a obligé, donc, ce contexte sanitaire a obligé à des réorganisations massives. Mais finalement, tu peux rassurer en disant tout va rentrer dans l'ordre. Je veux dire, c'est obligé ou c'est inévitable. Prenons l'exemple du coiffeur. Est-ce qu'on n'a pas tous eu notre rendez-vous chez le coiffeur finalement? Si. Donc, finalement, les collaborateurs vont avoir des informations sur leur dossier. Et ce qu'il vaut mieux, c'est plutôt, plutôt que de prendre en charge en disant bah, je vais me renseigner, je vais voir, c'est plutôt de dire à ton collaborateur ou ta collaboratrice, bah, écoute, à qui tu as fait le dossier, est-ce que tu peux recontacter cette personne pour te renseigner, pour savoir justement où en est ta demande. Mais j'insiste vraiment sur le fait de pas prendre en charge vous-même la demande, enfin toi-même la demande, je ne sais pas de vous voyez. Tout simplement parce que si tu commences, il faudra tout faire jusqu'au bout.
En gros, c'est le doigt, le bras, et après, derrière, en voulant aider, en fait, on se retrouve débordé et on aidera moins bien que ce qu'on aurait voulu aider au départ.
Bah, c'est surtout que c'est pas ton métier.
Ok. Mais du coup, moi, la question toute bête du naïf que je suis sur ces questions-là, si on a massivement des problématiques de type social, et notamment liées à l'activité partielle et ses conséquences en cascade, hein, les problématiques locatives, logement, enfin, toutes ces choses-là, aujourd'hui, l'impression que j'en ai, en tout cas en tant qu'intervenant, c'est que cette sphère sociale reste dans le domaine, je dirais, personnel, mais est-ce que là, elle risque pas d'envahir, ou en tout cas de s'installer dans le cadre de l'entreprise, et que ça devienne des discussions et des sujets pour les managers et pour les collègues?
Et c'est une bonne question. En fait, moi, l'hypothèse que j'ai en tous les cas, c'est que si on part du principe que les frontières entre le pro et le perso se sont particulièrement mélangées sur les 2, 3 derniers mois, et que notamment, si je fais un raccourci, mais parce que j'ai commencé à l'entendre, hein, finalement, si je suis moi en difficulté financière, c'est de la faute de mon bulletin de salaire, donc finalement c'est de la faute de mon entreprise. Donc, je crois qu'effectivement c'est un sujet qui pourrait être beaucoup plus souvent évoqué dans le milieu de l'entreprise et être exprimé voilà, de façon plus régulière. D'ailleurs, enfin, quand on discutait avec les RH avec qui on est resté quand même particulièrement en lien pendant tout le confinement, quand elles ont fait go sur les envois des bulletins de salaire, on voyait bien que c'était une question qu'elle aussi, il ou elle, anticipait, mais avec du coup le fait de pouvoir nous en parler, puisque nous, on est déjà installé un certain nombre d'entreprises. L'inverse peut être vrai aussi, c'est que les sujets de l'économique, ça relève de l'intime. Tu n'as pas envie d'aller voir ton RH, ton manager, pour dire que parce que tu as été en activité partielle, c'est la fin de mois est compliquée. Et finalement, ça va être un problème qui va relever de l'intime et qui va le rester. Moi, je pense que les entreprises doivent plutôt rester prudentes, à l'écoute. On sent que là, c'est un vrai sujet, puisque certaines d'entre elles commencent à se rapprocher de nous pour envisager une mission sur 6 mois, 1 an, l'histoire de passer la vague.
Merci Laurence. Donc là, on a vu un peu finalement les conséquences du confinement et de ce qu'on peut appeler le déconfinement, mais finalement, c'est jusqu'à aujourd'hui. Du coup, ma question maintenant, c'est pour demain, enfin pour aujourd'hui et les prochaines semaines. Du coup, Jeanne, moi, ma question, c'est avec des gens fatigués. Hein, on l'a vu, le confinement, le déconfinement, ça a un peu épuisé les gens. Même s'ils n'ont pas peur, même s'ils n'ont pas appelé la ligne, ça reste quand même un environnement très contraignant. On a aussi les clients qui reviennent, qui toquent à la porte. Hein, on l'a vu pour Laurence. Hein, Laurence, ses clients sont revenus. Donc, il y a une pression pour la reprise, pression du management, pression des clients. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines comme phénomène, comportement, problématique particulière?
On a été surpris d'un nous, puisqu'on s'attendait à accompagner des salariés hyper craintifs à l'idée de retourner vraiment sur le lieu de travail pour les raisons dont j'ai parlé juste avant. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, alors on va voir si ça va continuer, il y a de fortes chances que ça continue au regard des annonces qui ont été faites hier, mais qui en fait un fort sentiment de colère. Alors, colère pour plusieurs choses, hein, mais notamment face à des règles en fait de distanciation sociale et sécuritaire qui paraissent pour aux yeux de certains, en tout cas, je ne vais pas dire pour beaucoup, mais aux yeux de certains, trop rigide et contraignante par rapport à la situation sanitaire actuelle. Enfin, c'est comme si elles paraissent un peu obsolètes, puisque elles viennent, alors au-delà quand même de la contrainte que ça impose, évidemment, mais ça vient aussi acter encore plus un espèce de décalage entre une sphère professionnelle et une sphère personnelle, avec presque une injonction contradictoire ou paradoxale, avec à la maison, vous faites un peu comme vous voulez, mais dans la sphère professionnelle, c'est hyper rigidifié et hyper codifié.
Ça me fait penser à ce qui se passe à l'école où on met des règles improbables dans les expériences personnelles. Des règles improbables dans les écoles, mais par contre, à l'extérieur de l'école, même s'ils ont mis des petites lignes un peu partout, en fait, les gamins se jettent dans les bras, sont super contents de se retrouver à la sortie de l'école. Et donc, il y a une espèce d'absurdité à avoir imposé une rigidité comme ça quand il y a une très grande tolérance sur les comportements à la frontière, en fait, à la sortie de l'école. Donc, c'est vraiment juste derrière. Qui n'est absolument pas, qui ne pose absolument aucun problème. La directrice se met pas à s'énerver quand quand les enfants se font des gros bisous. Et donc ça crée de l'illogisme dont tu as parlé.
C'est complètement ça en fait. Et même, enfin, je ne vais pas faire de la délation ici, mais on le voit, enfin, peut-être vous le voyez vous aussi dans votre entourage professionnel ou personnel, mais dans la vie personnelle, il y a énormément de personnes qui ont déjà pris un petit peu leur distance par rapport aux consignes. Et certains, je dirais les noms, filous, sont un peu déjà même dans les entreprises, dans leur entreprise, pour essayer justement de se sortir un peu de cette contrainte. Des règles sanitaires qui sont imposées. Et ce qui est aussi intéressant, hein, si je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos insouciants qui étaient déjà là au temps du confinement, sont, et ça on l'entend vachement sur notre ligne d'écoute, sont hyper en colère en fait à l'encontre de ceux qui sont rigoureux et soucieux de l'application de ces règles. Et dans un même temps, on a les soucieux qui, eux, nous expriment une peur. De l'agacement, mais souvent aussi lié à de la peur, face à ces mêmes instructions. Là où ça se corse un tout petit peu, c'est que contrairement au temps 1 et au temps 2, donc le confinement et cette espèce de déconfinement un peu contraint, donc en gros du 11 mai au 2 juin, là, le temps 3 qu'on vit, il y a une mise en commun réelle de toutes ces personnes-là et donc de tous les ressentis qui peuvent être variés. La mise en commun de tout ça, puisque on peut alors réunir collectivement, certes, dans un périmètre restreint et à nombre restreint, mais on peut quand même être là tous ensemble. Ça vient faire une espèce de gloubi-boulgué de ressenti et ça demande à se positionner. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous réagissez si vous arrivez au bureau et qu'en gros, malgré l'interdiction de se rassembler, il y a un attroupement autour de la machine à café. Je sais pas, mais j'y vais pas, je passe pour un rabat-joie, je me joins en groupe, mais après je pantaille toute la journée sur est-ce que je vais être malade ou pas malade. Et voilà, donc c'est compliqué en fait de se positionner face à ça parce que ça entraîne du coup, des conséquences ou individuelles avec la peur du coup d'avoir été malade ou collective. Parce que du coup, il peut y avoir des mises à distance de ceux qui ne participeraient pas au groupe. Ou au contraire des conflits qui peuvent éclater. Donc en fait, tout ça vient faire un mélange qui peut vite déborder sur des conflits interpersonnels ou au contraire sur des conduites d'isolement de certains.
C'est hyper intéressant sur la partie, finalement, comment on gère ces tensions possibles à l'intérieur de l'entreprise. Et un truc qui marche mieux que d'autres trucs, sans dire que ça marche à tous les coups, c'est d'afficher plutôt que cacher. C'est-à-dire, moi, si j'ai peur, je vais le dire, et je vais le dire très honnêtement et très tranquillement. Je suis pas très à l'aise de revenir sur le site parce que j'ai un petit peu peur des maladies, etc. Bon, voilà. Mais du coup, comme j'ai un peu peur d'attraper le virus, il est possible que de temps en temps, je vous rappelle les règles ou je vous reprenne à l'ordre. Si j'ai l'impression que vous allez déborder, il faudra m'en excuser. De la même façon, moi qui suis plutôt de la catégorie des insouciants qui se travaillent, hein, j'essaie de me corriger, mais je suis plutôt de la catégorie des insouciants. J'aurais envie de dire à mes collègues, à Laurence, à toi, etc. Honnêtement, moi je me sens pas très à risque, à tort ou à raison d'ailleurs. Hein, c'est peut-être stupide de ma part, mais en tout cas c'est ma sensation. Et donc je vais évidemment essayer de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Mais s'il vous plaît, si jamais vous voyez que je bug, dites-le-moi, mais me sautez pas à la gorge. Vous voyez, c'est à la fois dites-le-moi, surtout j'en ai besoin pour pouvoir justement me corriger, mais tranquille, bienveillant. Et en faisant ça, si chacun un peu se positionne par rapport à cette problématique-là, hein, peur, pas peur, quoi, globalement, on se régule collectivement. Ça ne marche pas à tous les coups, ça n'empêche pas les difficultés, mais ça permet quand même de donner un tout petit peu de souplesse et d'absence de jugement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça permet de forcer l'absence de jugement d'une certaine manière, puisqu'on pose les choses sur la table.
C'est exactement ce qu'on fait pour essayer en fait que les personnes puissent exprimer en fait leurs émotions pour éviter qu'on rentre dans l'humeur. Et c'est un travail qu'on accompagne aussi sur la ligne, j'en parlerai peut-être un peu plus après, mais en tout cas, oui,
D'accord.
c'est C'est hyper intéressant. Et peut-être une dernier point que je n'ai pas abordé, au-delà de cette colère et de ces craintes, encore une fois, hein, qui sont présentes, on a une nouvelle appréhension dont je n'ai pas parlé encore. C'est par contre, parce que je n'en ai pas parlé, parce qu'elle n'est pas liée en fait au Covid-19 réellement, mais à la charge de travail. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous expriment une inquiétude, en fait, quant au souhait des directions hein, qui affichaient clairement de retrouver une croissance, d'atteindre des objectifs qui sont acceptables, quitte à mettre les bouchées triples. Et là, on entre dans un paradoxe, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire pareil sur peu de temps sans cramer nos équipes? Comment est-ce que je veille à la santé de ma boîte, mais tout en veillant à ma santé et que réciproquement, je ne me tire pas une balle dans le pied? Et ça, c'est un peu compliqué.
C'est l'équation
Donc,
insoluble, d'une certaine
ouais.
manière. Ouais.
Bah, surtout qu'il y a plein de contraintes qui n'ont pas disparu. Donc,
Bah oui,
il y a des contraintes qui sont
évidemment,
toujours
tout
là,
en
les enfants sont toujours
temps.
là, il n'y a toujours pas. Voilà.
Exactement. Et trouver le bon compromis, il ne va pas être facile. Je vais me tourner vers toi, Laurence, en te posant la même question. En fait, finalement, on va s'attendre à quoi? Côté social, côté soutien, côté précarité sociale, côté difficulté.
Voilà, c'est la partie où Jeanne, quand elle a commencé, disait qu'elle n'allait pas forcément dire des choses très très rigolotes. C'est moi qui vais donc prendre le relais. C'est que oui, bah, c'est maintenant que c'est dur. Et je pense que c'est notamment au sortir de l'été qu'on aura une idée un peu plus claire des choses. Comment ça va se passer? Quelle quantité? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que dès aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ont commencé à avoir des difficultés, qui peuvent être en. Voilà, on peut encore mettre en place des échéanciers, on peut encore discuter avec les créanciers, on peut encore faire de la prévention budgétaire, on peut encore réorganiser les budgets en fonction de nouvelles dépenses ou de dépenses et de moins de ressources. Si je prends par exemple le cas d'un impayé locatif, c'est des premiers mois qu'il faut commencer à agir. Donc, ça veut dire les premiers impayés locatifs, ils sont arrivés soit le mois d'avril, soit le mois de mai. Et qu'il faut, du coup, il faut aller vers son bailleur, il faut aller vers son banquier quand on est plutôt dans une situation des prêts immobiliers. Le problème, c'est que personne n'est à l'aise pour aller voir quelqu'un et lui dire bonjour, j'ai pas payé ma facture. Pire encore quand c'est son banquier, parce que le crédit, c'est là qu'il est domicilié et que d'ordinaire, quand on n'a pas payé son crédit immobilier, ce n'est pas tout à fait la seule charge qu'on n'aura pas payée. Et il faut avoir à l'esprit que dès lors qu'on est fragilisé par une dette, aller seul vers le créancier, c'est très compliqué. Voire pour certains, ça va être totalement insurmontable. Donc, si la situation se tend, qu'aucun premier pas finalement n'est fait, eh ben, on est sûr que c'est contentieux. Et là, on est sûr qu'au mois de septembre, on pourra gentiment glisser vers des possibilités d'expulsion avant la trêve hivernale, par exemple. Si je continue mon exemple sur les impayés locatifs, c'est maintenant qu'on peut agir. Parce que y a des dispositifs qui sont mis en place, ces dispositifs qui viennent se surajouter à d'autres dispositifs pour compléter des problèmes d'impayés locatifs, en tous les cas, qui ont été créés au moment de la crise sanitaire. En tous les cas, on peut encore agir maintenant. Quand tu me demandes à quoi s'attendre, j'ai un peu envie de te dire, bah, bien malin, qui va pouvoir savoir comment ça va se passer? Ce que je sais aujourd'hui, c'est. Le terreau sur lequel arrive tout ça, c'est qu'en 2019, l'Observatoire national des inégalités dénombrait en gros plus d'1 million de travailleurs pauvres et que la crise actuelle a conduit plus de 10 millions de salariés à une activité partielle. Donc, si on fait un peu une petite équation comme ça dans sa tête, on se dit que la crise économique sera le corollaire de la crise sanitaire. Et du coup, ça va pas se régler. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui va perdurer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que inévitablement, le facteur durée va ancrer des familles dans des difficultés plus ou moins importantes, un peu en millefeuille, et puis bah, va se surajouter bien évidemment les contrats pas renouvelés, les entreprises qui vont déposer le bilan. J'avais prévenu, hein, c'était pas la partie la plus rigolote de Et bah voilà, c'est mon tour.
Du coup, vu que le tableau n'est pas très joyeux, je propose qu'on essaye d'explorer quand même. Et là, je vais m'adresser vers toi, Jeanne. Finalement, est-ce qu'il y a des choses quand même positives qui sont passées pendant cette période finalement, en termes d'épanouissement, en termes de santé psychologique? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, notamment dans les échanges que tu as pu avoir avec les personnes à la ligne?
Ouais. Ah bah, déjà, merci Laurence, tu as bien noirci le tableau avant que j'arrive. Enfin, tu m'as aidé à bien me noircir, donc je
C'est
me
ça,
sentais moins seule.
on va
Mais
faire, on va faire.
ouais, il y a eu des choses positives quand même, puisque, alors vous avez entendu comme moi, il y avait énormément de salariés donc, qui nous ont témoigné le fait que le confinement avait permis, enfin, leur avait permis en tout cas de resserrer certains liens sociaux, alors que ce soit ou dans leur environnement personnel, avec la famille ou professionnel. Je parlais à Laurence, mais je n'avais jamais appelé autant ma mère et mon manager pendant cette période de confinement, du coup. Et donc, en fait, il y a énormément comme ça de liens qui sont repassés au premier plan alors qu'ils étaient plutôt en sourdine en temps normal. Pareil, lors du déconfinement, il y a eu énormément de témoignages de joie de retrouver le contact social de l'autre. Ce qui est un peu, enfin, c'est plus intéressant, je ne dis pas que le contexte social n'est pas intéressant, mais c'est que encore un truc auquel, en fait, je ne m'attendais pas du tout, c'est de voir qu'au niveau professionnel, il y a certains salariés qui ont profité de cette période. Alors, pour se former à certaines choses, pour se questionner, mais voire même pour se réorienter. C'est assez enfin, contre-intuitif, en fait, puisque on imagine les risques que ça comporte de prendre des risques en période de crise. Et j'ai eu accompagné notamment pas mal de personnes qui avaient refusé un plan de départ volontaire de leur entreprise et qui finalement l'ont accepté. Un peu comme si finalement ce confinement, ça avait boosté leur audace, ou en tout cas, ça les avait poussés à prendre une décision un peu plus du cœur que de peut-être que de la raison, j'en sais rien, mais en tout cas, une trajectoire qui semble un peu plus risquée peut-être au premier abord. Et je pensais qu'on allait avoir au contraire des personnes qui allaient se raccrocher à leur poste coûte que coûte, vu l'avenir un peu incertain qui nous était décrit, alors que en fait, pas du tout. Et je trouve que ça a été des accompagnements assez chouettes à suivre, pour ma part.
Je rejoins Jeanne sur l'aspect des décisions, c'est que dans nos entretiens, on a des personnes qui nous ont fait part de projets qu'ils avaient à cœur parfois depuis longtemps, des projections dans l'avenir. Et par exemple, on a eu à accompagner des personnes tournées avec des questions tournées sur la formation, sur des prises d'informations sur le, je sais pas, sur le CPF de transition. Et alors, je vais pas nier que parfois c'était pour anticiper un secteur d'activité qui potentiellement allait un peu dégringoler, mais vraiment pas que. Il s'agissait de personnes aussi qui nous disaient, je vais me former pour être plus compétent, j'ai envie d'engager quelque chose pour moi, il se passe un truc historique dans le monde et j'ai finalement envie de faire un truc un peu important et historique pour moi. Et du coup, je refais le parallèle sur cette histoire de confinement qui a donné une sorte de boost et d'audace à un certain nombre de personnes. Et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est de la projection.
Ouais, et puis c'est l'inverse de la peur. C'est-à-dire que des gens créatifs, mais qui, à certains moments, sur certains aspects, et puis qui peuvent être très courageux sur d'autres aspects. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, Jeanne, sur les aspects de santé psychologique?
Tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des hypothèses et on ne sait pas, enfin, elles ont de valeur en fait, ce qu'elles ont comme valeur aujourd'hui. Et c'est impossible de tout prévoir, de tout anticiper, de savoir toutes les réactions des uns et des autres. Et je crois que si on veut vraiment continuer à veiller à cette qualité de vie au travail qui est hyper éclectique et on l'a vu aujourd'hui, il faut continuer en fait à poser des questions aux individus, à prendre le temps de poser ces questions-là pour en sortir ensuite des enseignements collectifs qui soient plus généraux. Donc, gardons-nous d'apprendre trop vite en tout cas.
D'accord. Donc, ce que tu dis finalement, c'est que c'est le terrain qui continuera à nous alimenter. Laurence, toi, de ton côté, est-ce que tu as une conclusion, à apporter?
On a traversé quelque chose de particulièrement singulier. On ne sait pas trop comment se. On n'a pas de repères parce que la dernière pandémie, c'était il y a 100 ans. Donc, on a beau de regarder par-dessus notre épaule en termes de comment on peut faire, on n'a pas trop d'idées. Donc, pour rester optimiste, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas totalement démunis pour détecter, soutenir et accompagner les personnes qui sont en difficulté. On a quand même déjà des outils, des dispositifs. Et je rejoins Jeanne sur le fait qu'il faut rester à l'écoute et continuer de questionner les individus possiblement en difficulté.
Je suis tout à fait d'accord, hein. C'est-à-dire que, en tout cas, en tant qu'expert de la question du soutien de la santé psychologique au travail, le gros choc pour nous, c'est qu'on a vécu une énorme leçon d'humilité, à croire savoir ce qui va se passer et à voir la semaine suivante que ce qu'on avait imaginé, en fait, c'est pas passé. Donc ça, c'est vraiment un point important que Jeanne évoque et que Laurence renforce et que je re-renforce. Mais en termes de conclusion plus individuelle. Pour vous en tant que personne, pour vous en tant que manager, pour vous en tant qu'RH, enfin peu importe, et pour moi et nous en tant qu'intervenant ou en tant qu'être humain, et aussi en résumé de tout ce qu'on a pu se dire, en fait, comme on ne sait pas, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, comme on ne sait pas ce que les gens ont vécu, Je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la première chose à avoir en tête, c'est de suspendre son jugement sur l'autre. Vous prenez les gens comme ils sont, et il est très bon et très sain de s'inquiéter de son voisin, de s'inquiéter du bien-être de son collègue, de savoir comment il va. Mais pour savoir comment il va, il faut lui poser la question. C'est-à-dire de ne surtout pas se dire, bah lui, son problème, c'est ça, et donc on va faire ça, ça et ça. Et c'est surtout vrai pour les managers, parce qu'on a très vite tendance à étiqueter les personnes, parce qu'on connaît leur histoire, parce qu'on connaît leur histoire dans le collectif, parce qu'on sait que lui, c'est le râleur, lui, c'est le surmotivé. Alors, si c'est le surmotivé, c'est celui qui va donner une bouchée double. Mais peut-être que c'est celui-là, justement, qui a pris du recul par rapport à son travail. Donc, on ne sait pas à l'avance quel a été le vécu des personnes et qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur elles. Ça, c'est la première chose. Donc, suspendre son jugement, questionner les personnes pour savoir ce qui se passe, plutôt que d'inventer des réponses sans avoir posé la question. Comprendre pour pouvoir aider, quoi, si je devais résumer ça en deux mots. Deuxième chose, se tenir chaud dans une période aussi difficile, c'est essentiel. Et donc, le coup de téléphone pour savoir comment ça va, y compris au hasard, avec les collègues dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose qui est très aidant. Et je vais vous donner une petite histoire pour finir. Je tairai l'hôpital, mais dans un hôpital parisien en pleine crise de Covid. Donc, rappelez-vous, mois d'avril, hein, là, on était bien au chaud, là, on bougeait pas de chez nous, hein, puis on attendait que ça passe. Vous avez des externes. Les externes, ce sont des étudiants qui sont moitié à l'université et moitié, ils sont censés être à l'hôpital pour apprendre. Mais en pleine crise du Covid, ces externes, ils sont plus à l'université parce que les universités sont fermées, donc ils révisent leur internat. Et l'autre moitié, comme ils ne peuvent pas aller dans les hôpitaux, ils sont parfois participés au SAMU, parfois ils ont fait des choses comme ça. Puis parfois ils n'ont rien fait et ils tournaient en rond. Et en fait, ce qui a été proposé, c'est que les médecins, les grands médecins, ceux qui ont des plaques en or, ont pris la liste des externes au hasard, ils se sont répartis le boulot et chaque médecin a appelé les externes pour savoir comment ils vont. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien aux gens, que ça fait du bien à ces petits externes qui ne parlent pas à des médecins. Et ce médecin a juste voulu discuter 5 minutes. Et bien ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas causé à quelqu'un, de l'appeler juste pour savoir comment elle va. Et ça fait du bien et ça permet de se tenir chaud. Et je crois que je vais m'arrêter là, en espérant que ça vous a un petit peu aidé à voir un peu ce qui se passe, notamment la partie sociale et la partie psy individuelle, qui sont des choses qu'on ne voit pas souvent quand on est en entreprise, parce que c'est des choses que les gens cachent. Et j'espère que ça a été intéressant. Je vous dis à bientôt, peut-être, et puis plein de bonnes choses pour la suite. Au revoir.